Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le deuxième vice-président du Sénat, Basil Okwebo, vient de démissionner de ses fonctions. C'est quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition déposée contre lui par un groupe de sénateurs qui l'accuse d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Des allégations rejetées par son camp politique. Pour rappel, une pétition contre Basil Okwebo a été déposée lundi 16 mars au bureau du Sénat. C'est après ses prises de position contre un éventuel changement de la Constitution. Cependant, le sénateur Danny Kabongo, initiateur de cette démarche, a précisé que cette pétition n'avait aucun lien avec la position récemment exprimée par Modeste Bahati au sujet de la révision de la Constitution. Les pétitionnaires l'accusent plutôt d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Quel est le pire faire de la démission de Basil Okwebo, de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat? C'est l'objet de la mission de ce soir et nous en parlons ici au studio avec Philippe Ungi. Il est professeur, il est secrétaire général adjoint de l'AFDCA chargé des questions politiques. Bonsoir professeur Philippe Ungi.
Merci beaucoup, je suis doctorant et non professeur parce que
merci pour la précision.
Nous sommes dans un monde où on peut s'octroyer n'importe quel titre.
Merci pour la précision.
La qualité là nécessite une certaine vérité.
Merci. Ici au studio également, nous avons Itiel Batumi qui est analyste politique à Ebouteli, Institut Congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Bonsoir Itiel Batumi.
Bonsoir Guy, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi et à mon co-débatteur ici présent.
Toutes les tentatives pour avoir un des pétitionnaires dans cette émission n'ont pas abouti. Tous refusent de s'exprimer. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le deuxième vice-président du Sénat, Basil Okwebo, vient de démissionner de ses fonctions. C'est quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition déposée contre lui par un groupe de sénateurs qui l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Des allégations rejetées par son camp politique. Les détails avec Grace Amzati.
Tout commence le 4 mars dernier. Le sénateur Modeste Basil Okwebo tient un point de presse. Il s'exprime sur la question de la révision de la Constitution. Pour lui, les difficultés du pays ne viennent pas des textes, mais du comportement de certains dirigeants. Le pays n'a pas un problème de textes, il a un problème d'hommes, affirmait-il. Une déclaration qui déclenche une vague de réactions et de controverses, notamment au sein de l'Union Sacrée de la Nation, la plateforme au pouvoir dont il est membre du Présidium. Dans la foulée, une pétition est initiée par le sénateur Danny Kabongo. À ce stade, il est reproché à Basil Okwebo un manque de respect envers le président Félix Tshisekedi, autorité morale de l'Union Sacrée. Face à la polémique, Modeste Basil Okwebo tente de clarifier ses propos qu'il juge mal interprétés. Il présente ensuite ses excuses à sa famille politique et réaffirme sa loyauté au chef de l'État. Mais les pétitionnaires ne désarment pas. Lundi 16 mars, jour de la rentrée parlementaire, la pétition est officiellement déposée. Cette fois, Danny Kabongo parle d'incompétence, des accusations rejetées par Basil Okwebo. Dans sa lettre de démission, il affirme que sa décision est motivée par la recherche de la sérénité au sein de la chambre haute du Parlement, et non par l'aveu d'une quelconque incompétence. Il soutient s'être toujours acquitté de ses charges professionnelles correctement et en temps réel. Avec cette démission, une nouvelle page s'ouvre au Sénat, désormais appelé à organiser l'élection de son remplaçant.
Merci à vous, Grâce Amzati. Philippe Ungi, vous êtes doctorant et secrétaire général adjoint de l'AFDC chargé des questions politiques. Comment vous réagissez justement à la démission du professeur Basil Okwebo de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat?
Oui, tout à fait. Vous savez, en politique, il faut être parfois flexible, surtout lorsqu'on connaît l'intérêt qu'on cherche. Notre pays traverse des moments très difficiles avec la guerre de l'Est et au moment où nous devons orienter nos attentions sur les efforts du président de la République, chef de l'État, sur tous les mécanismes qu'il met en marche pour conquérir l'intégrité territoriale, eh bien au niveau de l'AFDC, nous avions dit qu'il ne fallait pas que nous puissions amener la population à oublier le contexte dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi la question étant éminemment politique, eh bien, en toute sérénité et pour permettre les institutions de fonctionner, on a bien décidé au niveau des organes que le président statutaire, Modeste Basil Okwebo, puisse présenter la démission et que les honorables sénateurs, l'Union Sacrée de la Nation, puissent voir dans quelle mesure n'est-ce pas, choisir une autre personne qui peut, n'est-ce pas, occuper cette fonction afin que notre pays puisse retrouver la paix en toute sérénité derrière le président de la République, la haute autorité politique des lignes sacrées de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Oui, le Sénat venait de mettre en place une commission chargée, n'est-ce pas, d'examiner cette pétition qui a été initiée contre lui. Et pourquoi n'a-t-il pas voulu attendre la fin de ce processus?
Non, vous savez, je l'ai bien dit. D'abord, la pétition en soi, si vous examinez, je crois que je vais vous donner la copie, l'argumentaire ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que de l'évolution, n'est-ce pas, de la situation, nous sommes partis de la conférence du 4 mars pour voir une certaine dynamique s'installer au niveau du Sénat. Vous aviez vu, à travers les médias, certains sénateurs se désolidariser, n'est-ce pas, de propos tenus de la conférence. Et comme notre chambre, le Sénat, est une chambre prestigieuse, n'ayant pas l'argumentaire pour asseoir leurs appétences, les pétitionnaires ont transformé, n'est-ce pas, les propos qui ont été soustraits, n'est-ce pas, du contexte pour nourrir les appétences, n'est-ce pas, parce qu'en politique les ambitions toujours existent. Eh bien, ils présentent une pétition, comme l'a dit l'éditorial, qui a présenté l'éditorial, qu'il s'agit d'une incompétence. C'est que l'AFDC rejette. Pourquoi? Parce que l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo n'était pas à sa première fonction. Il a été ministre de l'économie. Il a été ministre du Travail, Emploi, Travail et Prévention Sociale. Il a été, n'est-ce pas, à la Sonance. Il a été partout, même dans la conception du système politique. Parce qu'il est parmi les législateurs de la Constitution de 2006 à San City, voire même la modification qui a intervenu en 2011. Et donc, partout où l'autorité morale est passée, Modeste Bahati Lukwebo, il a démontré de quoi il était capable. Il était le premier, M. Guimaté, De prendre une mesure à l'endroit des véhicules de Monisco lorsqu'il était, n'est-ce pas, au niveau de la Sonance, pour que le pays puisse, n'est-ce pas, enregistrer les recettes énormes. Il était au ministère du Travail. Si aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale, qu'on appelait hier INSS, a un bon en termes de capital, en termes de millions, ce sont les réformes que le président Bahati, alors ministre, avait initié. Lorsqu'il était à ce ministère du Travail, nous avions constaté, nous avions ici, il n'y avait rien. C'est lui qui a ouvert l'actionnariat, n'est-ce pas, au niveau du Congo Airways, afin que toutes les compagnies qui disposent de l'argent du portefeuille de l'État, bien sûr, pour apporter un plus à la renaissance de cette compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre comment notre compagnie est en train d'émerger. Et au Sénat, président Bahati, alors président du Sénat, avait initié un cadre de concertation entre les élus des élus et sa base, donc des assemblées provinciales. Et donc, aujourd'hui, alléguer que Bahati était compétent, ah non. Au voir l'évolution, au regard de l'évolution de la question, eh bien là, je voulais vous montrer que Bahati Lukwe, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est un compétent, c'est une classe de la compétence parmi notre dans la classe politique de notre pays. Eh bien, on a voulu non ne pas aller dans les débats farfelus, les débats improductifs. Et comme la question était prise en charge au niveau politique, et en tant qu'un des co-initiateurs de l'Union sacrée de la nation, nous avions bien voulu montrer à la population congolaise qu'on n'est pas au Sénat pour les postes, mais pour servir, n'est-ce pas, notre pays. Et si les gens croient être sénateurs, ou bien produire des lois, ou bien apporter tout ce qu'on peut apporter pour aider notre pays à conquérir, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale, c'est être deuxième vice-président, nous avions démontré, nous avions pris la hauteur. Et en concertation avec ses pairs, nous avions dit non, si vous pensez que c'est le poste qui est nécessaire, prenez le poste, je démissionne. Et que, pourvu que je vais dire, que le pays avance, que la guerre se termine à l'est du pays et que le développement soit démis et la quiétude générale puisse régner dans notre pays.
Malheureusement, les pétitionnaires, n'est-ce pas, n'ont pas voulu être là pour assumer les griefs qu'ils formulent contre les sénateurs Modeste Bahati, parce qu'ils ne sont pas présents dans cette émission. Mais à travers les médias, l'un des pétitionnaires parlait souvent du fait que lorsqu'il voulait expliquer ce qu'ils entendaient par incompétence, il disait que l'honorable Bahati était en train de geler, n'est-ce pas, les dossiers des sénateurs relatifs aux initiatives de contrôle parlementaire. Voilà.
Non, tout à fait, Guy Maté, vous êtes journaliste d'investigation et je salue la radio Capi qui est suivie partout. Et je crois que nous ne devons pas nous limiter.
Ça ne vient pas de nous, hein. Ça vient
journaliste d'investigation.
Oui.
Et donc, par rapport à cette question, il y a la loi. Il y a un projet de loi qui a été initié d'ailleurs au Sénat dans les institutions pour accéder aux données. Pourquoi ne pas aller au Sénat vérifier combien des actions parlementaires qui ont été initiées par les honorables sénateurs, combien ont été traitées et combien ont été transmises, combien ont eu la décision, combien n'ont pas eu la décision pour asseoir un argumentaire dans l'opinion publique. Vous savez, les médias ont un rôle d'éduquer, les médias ont un rôle d'informer. Et nous, nous ne devons pas être le membre du média ou bien parler dans les médias pour parler, mais plutôt apporter quelque chose qui peut contribuer dans l'intellect, même dans notre savoir-vivre.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ces accusations.
La DCA n'est pas d'accord, étant donné que toutes les actions parlementaires de députés, de déshonorables sénateurs, ont été transmises à qui des droits, parce qu'en étant un deuxième vice-président ou premier vice-président, on ne prend pas la décision. Mais plutôt, il instruit, il analyse avec son cabinet, il transmet à qui des droits pour que le président de la Chambre puisse prendre les décisions. Et au niveau, n'est-ce pas, de la deuxième présidente du Sénat, le répertoire est là, le registre qui documente les entrées et les transmissions sont là. Et je vous invite, bien sûr, à visiter son bureau avant la remise et reprise. Peut-être que vous pouvez accéder à des données parce qu'ils ne sont pas autorisés à les mettre dans les réseaux sociaux. Il est important de préciser, Guy Maté, les gens pensent que les institutions fonctionnent comme les ONG. Les ONG, chaque personne est chef de son département et au niveau de cette approche, chacun rend compte, n'est-ce pas, en fonction de son contrat. Tandis qu'en politique, c'est un espace de conciambile. On est premier vice-président, deuxième vice-président, on se rencontre au bureau du Sénat, on participe dans des réunions, on délibère à la politique publique, en fonction des lois qu'on reçoit ou des actions à mener, mais le deuxième vice-président n'a pas de décision. Le premier vice-président n'a pas de décision. Le questeur n'est que là pour préparer les états financiers et consorts et il ne peut pas signer. Il ne peut pas ordonner parce que c'est lui qui ordonne, c'est le président du Sénat. Et bref, moi je pense, aller dans le bureau du deuxième vice-président, documentez-vous parce que vous êtes le seul qui pouvait parler. Vous allez dire, je suis politicien, j'ai l'argumentaire, mais j'ai tous les dossiers ici et même le nombre des actions parlementaires des honorables sénateurs dans ma judiciaire. À la sortie, je vais vous déposer ça, combien c'était transmis. J'ai toute une documentation par rapport à ça parce que je savais que ça allait revenir.
Voilà, vous avez suivi les reportages de notre collègue Gassam Zati qui affirme que tout est parti, n'est-ce pas, de cette prise de position de l'honorable Bahati au sujet du débat sur la révision ou le changement de la Constitution. L'honorable Bahati a assumé ses positions, ses prises de position, et même quand les choses ont évolué, il a présenté les excuses, mais en dépit de ça, les sénateurs se sont désolidarisés de lui. Comment vous comprenez cela?
J'ai dit, nous sommes dans un monde politique, nous ne sommes pas dans une église, où on doit accompagner les gens à l'église pour solliciter les pardons ou bien la miséricorde du Tout-Puissant, mais plutôt en politique, tout le monde arrive pour chercher le pouvoir. Et pire encore, avec le chômage qui bat, n'est-ce pas, le terrain, eh bien, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans un gouvernement, eh bien, on cherche à y rester, on cherche comment remplacer l'autre, au lieu de s'atteler à ce qui est attribution conformément à X poste envié. Et donc, moi, je crois que par rapport à cela, il s'agit de l'action parlementaire. La procédure a été engagée et nous saluons le bureau pour avoir, n'est-ce pas, initié la commission en fonction de l'article, des articles qui concourent au contrôle parlementaire et à la matière pour les membres du bureau, c'est l'article 31. Et donc, du règlement d'ordre intérieur, nous pensons que le poste du deuxième vice-président appartient au passé. Et ce qui est important ici, le président Bahati demeure honorable sénateur.
Voilà.
Il est membre de l'Union sacrée. Les débats continuent autour, n'est-ce pas, de l'encadrement de comment qui peut succéder parce qu'il ne faudra pas qu'il soit aussi une personne qui n'aura pas de compétences, mais plutôt quelqu'un qui va remplacer Bahati, parce que remplacer Bahati, ce n'est pas facile, au regard de l'expertise qu'il dispose, parce que moindre pépin, eh bien, on pourra assister à des débâcles et apporter des jugements inutiles au bureau du Sénat qui doit travailler pour aider le chef de l'État dans la conquête de l'intégrité territoriale.
Merci Thiel Batumike, analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Et quel est-il que vous faites de la démission de l'honorable Bati Lukwebo de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat?
Alors, ma lecture est à trois niveaux. Le premier niveau, c'est sur l'aspect du fonctionnement des institutions parlementaires aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parce que ce qui vient d'arriver à Bahati Lukwebo, Kamere venait de le subir il y a quelques mois. Et donc on voit aujourd'hui une certaine volonté de caporaliser les chambres parlementaires. Et donc, seule la volonté de l'exécutif prime. Parce que lorsque il y a eu ce reportage, on a entendu que parmi les griefs, il y avait le fait que l'on avait considéré que les propos de l'ancien deuxième vice-président du Sénat étaient constitutifs en fait, d'injures à l'égard du président de la République. Donc on voit qu'aujourd'hui, contrairement au Sénat qu'on a eu à l'époque de Kengo, qui pouvait s'opposer à l'adoption de la modification de la loi électorale en 2015, cela est loin d'arriver aujourd'hui parce qu'on a un Sénat qui apparemment semble ne plus représenter la sagesse qui est attendue de cette Chambre. Et ça, on peut le voir même dans les réactions qui ont suivi juste après la déclaration de Bahati Lukwebo, où le bureau du Sénat s'est désolidarisé des propos tenus par Bahati Lukwebo, alors que ces propos n'avaient pas été faits dans le cadre du bureau du Sénat, mais plutôt dans le cadre d'un fait privé, l'AFDC en tant que parti, ou alors de Bahati Lukwebo en tant qu'individu. Donc à ce niveau-là, bien que ça reste un droit légitime pour un sénateur d'initier une pétition contre un membre du bureau, on voit qu'il y a plutôt des motifs cachés, et le vrai motif qui est là, c'est la question de la révision constitutionnelle qui pose problème, et non pas la question de l'incompétence. Donc je rejoins les co-débatteurs sur ce point, qu'il n'y a pas ici question d'incompétence, mais plutôt ce débat-là qui fâche et qui a été d'ailleurs avancé pour la première fois comme argument.
Et comment, avant de passer à l'autre aspect, comment vous expliquez cette évolution des choses par rapport au grief? Au départ, il y a cette prise de position par rapport à la révision de la Constitution, et tout de suite, les sénateurs initient la pétition, mais les jours où les sénateurs vont déposer la pétition, ils disent que ce n'est pas par rapport à cette prise de position sur la Constitution, mais c'est plutôt parce qu'ils estiment qu'il est incompétent. Comment vous expliquez cette évolution par rapport à ces accusations?
Mais je pense que cette incohérence, cette inconstance dans les motifs ou même dans les agissements de la personne incriminée elle-même prouve qu'effectivement le Congo a un problème d'hommes, comme l'affirmait Bahati Lukwebo, et non pas de textes. Et nous venons à Ebouteli aujourd'hui de publier une note d'analyse sur les 20 ans de la Constitution congolaise, où nous partageons le même point de vue que Bahati Lukwebo, que le problème de la Constitution aujourd'hui n'existe pas. Il y a plutôt le problème de l'application que l'on en fait. Et ce sont les hommes qui appliquent les textes. Donc, à notre niveau, nous estimons que ce n'est pas les textes qui posent problème, mais plutôt la pratique qu'on en fait. Cette pratique qui finit finalement par dénaturer les institutions qui ont été consacrées et leurs équilibres. Donc, c'est une note que j'encourage vos auditeurs à lire pour pouvoir comprendre effectivement le vrai débat où il se situe. Ce n'est pas les textes, mais plutôt les personnes censées d'appliquer les textes.
Alors, après l'aspect sur le fonctionnement des institutions en RDC, vous avez l'autre aspect?
Alors, l'autre aspect, c'est lié au glissement qu'on est en train de voir vers le rétrécissement des libertés publiques, la liberté de la parole, la liberté de penser. On voit comme une tendance de vouloir imposer une pensée unique. Donc aujourd'hui, si un deuxième vice-président du Sénat qui s'exprime en dehors du cadre institutionnel doit perdre son poste juste parce qu'il a soutenu un avis contraire, et que ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'il soutenait cet avis, et qu'il n'est pas la première personne au sein de la majorité à se distancier de ces de ce qui est en train de se tramer en termes de révision ou changement de la Constitution. Vous allez vous rappeler que la position de Vital Kamerhe sur la question de la révision ou du changement de la Constitution a toujours été ambiguë. Et c'est parmi les choses en coulisses qui lui ont été reprochées pour arriver à perdre son poste. Jean-Pierre Bemba lui-même, lorsqu'il passait dans une émission de Top Congo, il disait que la révision était possible et que les changements n'est pas permis. Et quelques temps après, on a vu un communiqué de son parti qui venait recadrer. Mais la différence ici, on voit que pour les autres, pour Jean-Pierre Bemba particulièrement, qui a eu à se rétracter à travers son parti politique, il n'y a pas eu de conséquences politiques en termes de sanctions disciplinaires au sein de l'Union Sacrée, alors que Bahati Lukwebo, qui a soutenu que le problème ce n'est pas les textes, mais plutôt les hommes, il revient, il se rétracte, il demande pardon, mais le pardon ne lui est pas accordé, il est frappé. On peut voir quand même là deux poids, deux mesures dans la manière dont la discipline est administrée aux sociétaires de l'Union Sacrée. Et ça, ça pose problème. Parce que ça signifie qu'aujourd'hui, le débat n'est plus permis, même au sein de la majorité. Or, la majorité aujourd'hui, elle est écrasante au niveau des chambres parlementaires. L'opposition n'existe presque plus. Et donc, si l'opposition ne peut même plus s'exprimer parce qu'elle n'existe presque plus, alors il faudrait qu'il y ait au moins à l'intérieur de la majorité des débats. Mais ces débats-là, on ne les voit pas. Et ça fait craindre qu'on est en train de tendre, de glisser progressivement vers le retour de la pensée unique. Et c'est très dangereux, je pense, pour l'avenir du pays. Il faudrait que l'on arrive à réinstaurer les débats, y compris dans les partis politiques, pour pouvoir s'assurer que la démocratie fonctionne. Mais les troisième points de ma lecture de cette démission, s'il y a un problème aujourd'hui au Congo avec notre classe politique, on a un problème, je dirais, des convictions de nos acteurs politiques. On ne sent pas la capacité pour nos opérateurs politiques d'assumer leur position. Lorsque Bahati Lukwebo a fait cette déclaration, beaucoup de gens l'ont soutenu, pensant qu'il y avait quelque chose qui est en train d'émerger au niveau de l'Union Sacrée pour faire entendre notre son de cloche, contrairement à ce qu'on est en train de voir dans les débats, dans les meetings, ça et là. Mais on a vu plus tard quelqu'un qui revient, qui se rétracte et qui demande pardon. Alors que, même s'il dit dans sa lettre de démission que ce n'est pas un aveu, mais je pense qu'il n'y a pas, généralement, il n'y a pas de responsabilité sans faute. Souvent, la responsabilité, c'est lorsqu'il y a une faute. Et donc, en s'excusant, il reconnaît qu'il a mal agi. Et c'est très dangereux aussi parce que ça signifie...
Et donc, il devait maintenir sa position jusqu'au bout.
Bien évidemment, il devait maintenir sa position jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, en se rétractant, en disant qu'il a été mal interprété, qu'il a été mal compris, il donne finalement raison, lui-même donne raison, que finalement le problème ce n'est pas les textes, le problème c'est les hommes politiques qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de constance. Et lui-même en est la preuve en fait. Parce que si lui n'était pas le problème, il allait garder sa position. Vous savez, Bahati Lukwebo, il venait de fêter ses 70 ans. C'est quelqu'un de suffisamment mature et sage pour pouvoir peser les mots à prononcer et les assumer par la suite. Et donc, venir dire quelque chose le matin et le soir se rétracter et présenter des excuses en voulant faire croire qu'on a mal interprété ses propos, c'est un manque de courage politique et plus grave, c'est un manque de conviction politique. Et c'est là que notre classe politique pêche. Et donc, je suis d'accord qu'il est victime quelque part, comme l'a été Vital Kamerhe, d'un règlement de compte au sein de la majorité, mais en même temps, sa personnalité ne convainc pas parce que lui-même, il n'a aucune conviction et on voit qu'il y avait une tendance à vouloir s'accrocher au poste, mais la pression est tellement forte que son sort était déjà scellé, qu'il ne pouvait plus continuer à faire un front, surtout que ça serait interprété comme si il était en train de vouloir affronter le président de la République.
Voilà, c'est justement ça. Est-ce que s'il avait maintenu sa position, s'il n'avait pas présenté ses excuses, est-ce qu'on ne l'aurait pas considéré comme étant un rebelle au sein de l'Union Sacrée et avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence?
Alors, je pense quelles conséquences ça entraînerait de garder sa position. On peut être dans la même famille politique,
dans la même famille biologique et chacun va partager ses opinions sans pour autant être un rebelle. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'avoir des contrepoids au sein de la majorité même. Parce que si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient qui dit « faites ça » et tout le monde dit « amen », je pense qu'on est en train d'aller dans un gouffre quelque part. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent dire « stop, là où nous allons, c'est pas la bonne direction, il faut qu'on rentre sur le bon chemin ». Et ça, c'est pas que sur la question de la révision constitutionnelle, c'est aussi sur la manière dont d'autres décisions sont prises qui touchent à la vie des Congolais. Et donc, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, même à l'intérieur, au sein d'une famille politique.
Philippe Ondu, secrétaire général adjoint de l'AFDCA, comment vous expliquez justement le fait que l'honorable Bahati prend une décision, il assume même sa position, et quelques temps après, il présente des excuses. Comment vous expliquez cela?
Vous savez, nous sommes dans un monde politique, et ça c'est très important. Nous sommes dans un monde politique, nous ne sommes pas dans les analyses scientifiques. Je suis content d'être en face d'un professeur et ami de Le Boutelli qui fait l'analyse. Ok, analyste, n'est-ce pas, de Le Boutelli, qui fait l'analyse scientifique. Comme devant les étudiants, il démontre comment un homme politique doit être, et j'en passe. Mais lorsque vous entrez dans un monde politique, et heureusement il a dit qu'il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur ce que, n'est-ce pas, advienne pour qu'un auteur puisse, n'est-ce pas, agir comme l'a fait le président Bahati. En effet, d'abord, ces groupes de mots, on doit préciser à l'opinion que les groupes de mots qu'on a soustraits du discours du contexte étaient utilisés sur le plan éducatif. Pourquoi? Parce que Bahati, en tant que professeur d'université, lorsqu'il est en face des générations montantes, des générations qui assumeront, n'est-ce pas, la responsabilité de l'État, il ne cesse de le dire, et ce n'est pas la première fois que nous avons un problème de texte, nous avons un problème d'homme et non de texte. Parce qu'on peut même vous paraphraser pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une rétrocession en province, afin que les exécutifs provinciaux puissent assumer pleinement leur mission, n'est-ce pas, au regard de ces dispositions qui est dans le texte. Est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'on fasse quoi pour qu'on applique le texte? Voilà. Est-ce que pour qu'on mette fin à des détournements que nous sommes en train d'assister, il faut vraiment qu'on fasse quoi? C'est l'homme, c'est l'individu. Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, c'est là qui ont utilisé ces groupes de mots en l'orientant au chef de l'État, n'est-ce pas, qui était le sens même du contexte dans lequel Bahati a utilisé ces groupes de mots. Donc c'était un groupe de mots interpellateurs à des générations présentes et futures qu'ils mettent dans leur conscience, n'est-ce pas, qu'ils ont une responsabilité
qui
à jouer.
Ils devaient maintenir, n'est-ce pas?
Voilà.
Mais il ne l'a pas maintenu, malheureusement.
Ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit, c'est pour cela que je te dis. Mais par rapport au contexte politique, n'est-ce pas, lorsqu'on a une vision, il est tout à fait normal qu'on peut se rencontrer avec les épines et il faut chercher comment est-ce que les esquiver afin qu'on n'oublie pas ce qu'on dit. Parce qu'en tant que président d'un parti politique, il doit aussi, n'est-ce pas, esquiver à tout ce qu'on peut esquiver en utilisant n'importe quel concept afin que cette mission, cette vision puisse être appliquée et non faire le bras de fer parce que Bahati est capable de faire ce bras de fer. Mais ça nous en amènerait où et à quoi? Nous l'avions fait avec Joseph Kabila, militaire de formation, lorsqu'on a travaillé pour, n'est-ce pas, conquérir la paternité de la FDCA et de la FDC. Et donc, nous, au niveau politique, c'est là où je dis à l'analyse de Le Boutelli, que nous avons une vision politique au niveau de la FDCA et nous l'avons donnée au chef de l'État pour qu'il mette tout ce que nous avons comme contribution, qu'il le mette à profit afin de conquérir l'intégrité territoriale de notre pays. Donc le pardon que vous prenez, ce n'est pas un pardon de l'Église, mais un moyen pour permettre à ce que nous apportons à l'Union sacrée puisse être entendu, ce que nous apportons à l'Union sacrée puisse ouvrir les débats, ce que nous apportons à l'Union sacrée, n'est-ce pas, puisse être entendu et surtout la vérité, pour que le chef de l'État exécute pleinement, n'est-ce pas, cette vision qu'il a au niveau, n'est-ce pas, de la plateforme politique qui l'accompagne, au niveau des institutions qu'il dirige, afin que nous puissions, n'est-ce pas, conquérir l'intégrité territoriale de notre pays.
Philippe Ondji, vous gardez la parole, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis longtemps, depuis Kinshasa, c'est Junior Bompongo. Vous allez réagir, n'est-ce pas, à sa réflexion.
Junior Bompongo, depuis la ville-province de Kinshasa, la démission du deuxième vice-président du Sénat de notre pays, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, survient quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale pour examiner la pétition déposée contre lui, officiellement pour incompétence. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la procédure interne a été précipitée avant même l'adoption du calendrier des travaux de la session. Quant à moi, comme un acte de prudence personnelle, un signal politique ou une stratégie de retrait temporaire, elle illustre surtout la tension persistante entre pouvoir procédure et légitimité. Et rappelle d'ailleurs que la crédibilité des institutions dépend autant de la rigueur des règles que du respect de leur esprit. Merci.
Philippe Ondji.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il s'agit d'une observation. Il s'agit d'une observation de notre compatriote qui, lui, estime que la procédure a été, n'est-ce pas, a pris de la vitesse par rapport à ce qu'il devrait se faire. On n'avait pas encore adopté l'ordre du jour de l'Assemblée. Eh bien, c'est son observation. Et moi, en termes d'observation, je ne peux pas commenter parce que je ne suis pas porte-parole du bureau du Sénat. Et alors, vous chercherez qui pourra répondre. Moi aussi, j'ai constaté comme lui. Mais sinon, ce qui est important, c'est ce schéma qu'adopté en toute sérénité, n'est-ce pas, le professeur Bahati-Lukwebo, président statutaire de l'FDCA, pour que nos institutions puissent s'atteler à des priorités du pays et non aller dans des débats inutiles.
Merci. Ikiel Batmike, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui a entendu nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu, c'est Isidore Bahati.
Isidore Dunia, depuis la ville de Bukavu. La démission de Bahati-Lukwebo peut être lue positivement comme un acte de responsabilité politique. En choisissant de se retirer, il évite que le Sénat ne se lisse dans une crise institutionnelle prolongée et permet à la commission spéciale de travailler dans un climat apaisé. Ce geste peut être interprété comme une volonté de préserver l'image et la crédibilité de l'institution plutôt que de s'accrocher à un poste au risque d'alimenter davantage les tensions. Sur le plan personnel, cette décision lui offre une opportunité de se repositionner politiquement et défendre ses idées en dehors des contraintes d'une fonction contester et de montrer qu'il privilégie l'intérêt général. En se retirant, il renforce l'idée qu'un responsable politique doit savoir céder la place quand les conditions deviennent conflictuelles, ce qui peut être perçu comme un signe de maturité démocratique. Cette démission peut être vue comme un choix stratégique et honorable.
Oui, Itiel Batumike.
Je pense que la crédibilité du Sénat aujourd'hui, elle est à questionner pour avoir réagit à quelque chose qui s'est fait en dehors du Sénat, dans un cadre privé qu'est un parti politique. Et donc, la crédibilité, il faut la reconstruire parce que même les griefs pour lesquels il est aujourd'hui mis à la porte ne correspondent pas avec la réalité. Je pense également que le repositionnement de Bahati-Lukwebo aujourd'hui, il pose problème parce qu'il a manqué de courage, il a manqué de personnalité pour assumer ses propos. Je pense qu'il aurait été bénéfique pour le pays, pour lui-même, de rester ferme dans sa position de manière à respecter la discipline interne de l'Union sacrée si elle existe.
Vous avez suivi, monsieur Philippe Ondji, qui pense que dans un monde politique, cette évolution-là peut s'expliquer.
Non, justement, lorsqu'on dit qu'il y a la politique selon la science et la politique selon la pratique, ça revient, selon l'art, la pratique, l'art ou tout ce que vous voulez, ça revient à confirmer le problème. Le problème, c'est les hommes. Les hommes qui pensent que c'est qui, parce que la science, c'est ce qui est écrit aussi. Le droit constitutionnel, c'est une science. Et donc, dire aujourd'hui qu'on ne peut pas respecter la constitution parce qu'on fait la politique qui est un art, ça revient à dire aujourd'hui que le problème, c'est les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se rendre compte que Bahati-Lukwebo n'a pas démissionné, comme il est dit, pour laisser la sérénité au niveau du Sénat. On sait bien qu'il n'a pas les moyens, contrairement à ce que mon co-débatteur a affirmé, que l'AFDC il a les moyens pour faire le bras de fer. Je pense qu'il n'y en a pas. Quand on lit les derniers communiqués du secrétaire général de l'AFDC de ce matin, on voit toutes les conséquences qui les attendent, notamment les redressements fiscaux, les poursuites pénales qu'ils disent dans leurs communiqués qui sont en train de leur être brandis comme des menaces. Donc, il n'y a pas de moyens. Alors que je pense que si Bahati Lukwebo
il y avait des chantages à l'endroit de M. Bahati.
C'est ce que dit le communiqué de l'AFDC d'aujourd'hui, signé par leur secrétaire général. Pourtant, ces accusations, ces chantages, ces menaces auraient été inefficaces s'il avait gardé position. Mais après s'être excusé, l'opinion ne pourrait plus compatir comme il le faut avec lui, parce que lui-même il reconnaît avoir commis une faute. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui l'acte de démission et des demandes de pardon qui a précédé veut dire aujourd'hui, signifie concrètement qu'on ne peut pas aujourd'hui s'opposer à ce que pense le président de la République au Congo. Ça renforce l'idée que tout ce que veut le président de la République, c'est dans le bon sens. Et que tout ce qu'ils sont contre à ce que pense le président de la République sont des rebelles, sont des gens qu'il faut assimiler au M23, comme lui-même il est assimilé au M23. Le communiqué de l'AFDC le dit que Bahati Lukwebo aujourd'hui est assimilé au M23, il est assimilé aux Iraniens, aux Rwandais et tout le reste. Et donc aujourd'hui je pense qu'il faut assimiler, il fallait assimiler pour ne pas donner l'impression qu'on est dans un pays où le crime de lèse-majesté continue à exister, alors que le président de la République lui-même s'est dit être démocrate, son parti, c'est l'Union pour la démocratie. Et donc, aujourd'hui, céder à cette pression renforce l'idée que personne n'a le droit de parler, d'avancer des idées contraires à celles qui sont soutenues par la majorité.
Et à votre avis, cette démission pourrait avoir quelles conséquences au sein de l'Union sacrée de la Nation?
Aucune conséquence. On sait déjà que l'Union sacrée et Bahati Lukwebo l'a dénoncé dans sa conférence de presse. L'Union sacrée est fragilisée. L'Union sacrée est déstructurée depuis qu'on a nommé un présidium à plus de 40 personnes. C'est ce que Bahati dénonçait. Donc, il n'y a aucune conséquence. Tous les grands qui se disputaient à l'époque au nombre de 6 ont été neutralisés à travers cette réforme de l'Union sacrée. Et ce qu'on voit dans ça, c'est qu'aujourd'hui, Bahati Lukwebo n'a pas le courage de quitter parce qu'il y a toutes ces menaces qui pèsent sur lui, comme les 10 sont partis.
Philippe Onvu, vous allez réagir une fois de plus à la réflexion de notre auditeur qui appelle depuis la ville de Bukavu, c'est Jules Maguené.
Je suis Jules Maguené, coordonnateur du Forum des Nationalistes depuis la ville de Bukavu. La démission de Bahati Lukwebo n'est pas un accident de parcours. C'est l'illustration parfaite de ce que le régime Tshisekedi est en train de devenir. Sous couvert d'une pétition pour incompétence, ce sont les opinions de Bahati Lukwebo qu'on a voulu sanctionner. Depuis qu'il a osé dire non à la révision constitutionnelle, il a été dans le viseur. Le régime Tshisekedi ne supporte aucune contradiction. Si tu n'es pas d'accord, on te fabrique un dossier, on monte une commission et on te pousse vers la sortie. Ce n'est plus de la politique, mais c'est de l'épuration.
Philippe Ondi.
Vous savez, j'insiste encore, la politique est définie comme une science et en même temps comme l'art. Et que interpréter les faits politiques, il faut les inscrire dans les deux cadres. Je sais très bien que la science est claire, la politique, l'art et j'en passe, mais en termes d'art, nous avons vu des sociétés qui ont évolué sans la science, quand bien même c'était à l'oral, mais au moins ils ont évolué et ils ont fait des bons résultats. En effet, je crois que nous devons plus voir la portée opérationnelle de la démission du président Bahati. Vous dites que l'Union sacrée n'existe pas.
Quelle portée?
La portée politique de la démission du président Bahati, c'est pour que la tension particulière, comme l'a dit un des auditeurs, puisse être vraiment concentrée sur l'avenir de notre pays. Nous sommes dans une situation terrible. Il est de l'Est, le monsieur Denis Boutelli. Je suis de l'Est. Je sais aujourd'hui où Vira est sous menace d'être reconquis par, n'est-ce pas, le M23. Et donc, aller encore dans des débats qui peuvent désorienter les institutions, Bati a pris le courage de responsabilité pour dire non, si c'est moi qui peux poser des problèmes dans l'orientation des politiques publiques au niveau du bureau du Sénat, or bien je démissionne. Mais pour
et cette situation de démission alors, pourrait changer quoi au sein de l'Union sacrée?
Bati lui-même l'a dit dans son exposé, parce que quand on soutire un petit mot, il a dit oui, au niveau de l'Union sacrée, l'AFDC des maires ouvert à la discussion sur cette question. Je pense qu'il a la vidéo sur la conférence de Bati, il ne pourra pas me contredire. C'est-à-dire, dans sa démarche politique, et qu'il aime, parce qu'il est un des artisans de l'Union sacrée, que ces discussions du genre des options politiques puissent être discutées, n'est-ce pas, au niveau de l'Union sacrée. C'est une démarche politique, c'est vrai. C'est vrai, ça peut pas, ça ne se fait plus comme on le faisait à l'époque où il y avait Kamere, Bemba, Mbosso, président Sama, tous sont honorables, je m'excuse, n'est-ce pas? Mais on a ajouté 40 pour renforcer, n'est-ce pas, cette réflexion. Parce
voilà,
que on a mené peut-être à un monologue, mais maintenant avec 40, c'est pour enrichir, n'est-ce pas, les débats. Mais l'essentiel est que on tienne compte de cette situation pour améliorer, pour que le chef de l'État puisse avoir une plateforme politique qui va l'accompagner dans la vérité et non dans les mensonges.
Nous sommes à la fin de l'émission, vous allez conclure. Hein. Et comment vous entrevoyez l'avenir de l'AFDCA au sein de l'Union sacrée, M. Philippe Oundi? C'est votre conclusion.
L'AFDC et l'AFDC HR à Modeste Bati Lukwebo demeurera une deuxième force politique dans notre pays. Ça sera une force de contribution, des échanges au niveau de l'Union sacrée, et nous jouerons notre rôle pour asseoir les grandes options politiques derrière le président de la République, chef de l'État, la haute autorité politique de l'Union sacrée, et que toute la population qui ne mette pas un point sur le débat d'aujourd'hui, mais plutôt qui nous regarde, qui regarde l'AFDC, qui regarde l'autorité morale, parce qu'il a un rôle à jouer, même dans le redressement de comment faire la politique dans notre pays, comment orienter le dirigeant à travers ses idées, son expérience, son histoire. Et en plus, quand on parle de menaces et tout ça, ça peut arriver en politique, mais au moins, à la date d'aujourd'hui, le président Bahati a démissionné de son poste, il est serein à sa résidence, et qu'après des entretiens avec la haute sommité, n'est-ce pas, tout se comporte très bien, et toute sa famille est sereine, et le parti politique continuera sa lutte politique aux côtés du président de la République et de l'Union sacrée de la nation.
Merci, Etienne Botemouki, vous allez aussi conclure. Hein. Quel est le message que cette situation, n'est-ce pas, lance à l'international? La situation des démissions de Bahati, cette affaire Bahati, ça lance quel message à l'international?
C'est une question de souveraineté nationale. Le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo ne concerne que les Congolais. Il n'y a aucune menace pour la sécurité internationale à travers ce dossier pour que,
et l'image que, ça
pour
donne.
Que la communauté internationale
l'image du pays.
Soit
l'image
mobilisée du pays. Un peu comme c'est le cas pour la guerre dans l'Est. Donc c'est des choses différentes, mais je pense que le message que ça renvoie tout de même, c'est qu'il y a de plus en plus un rétrécissement de l'espace politique où la pensée devient de plus en plus unique, où on ne veut plus écouter les autres sons de cloche qui sont différents de ce que pense la majorité. Et donc on essaie de tout faire pour ne pas offenser les chefs. Et ce qui essaie de dire la vérité, ils sont traqués. Malheureusement, cette situation n'est qu'une répétition de l'histoire. Parce qu'il y a quelques années, en 2015, lorsque les G7, les groupes de cette partie, demandaient à Joseph Kabila de ne pas réviser la constitution, ils ont été chassés de la majorité. Eux, on sait la suite. On souhaite qu'il y ait une majorité qui gouverne, mais en même temps des voix discordantes qui peuvent être écoutées pour faire avancer le pays, parce qu'on a besoin des gens qui ne prennent pas les armes, mais des gens qui parlent librement et pacifiquement, et l'autorité investie du pouvoir de réunir le pays en tant que garant de la nation doit aussi à un moment écouter les voix qui ne sont pas dans sa philosophie politique et faire avancer le pays.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Monsieur Philippe Ondji et Monsieur Itiel Batumike. Merci aussi à tous les auditeurs d'Espa qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi et David Mugisa qui l'ont réalisé, à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, à Alain Ngoy qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.